VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
En direct du studio 9 de Washington, la voix de l'Amérique, Abdelrahman Dia au micro pour cette édition de 19h30, temps universel, ce vendredi 12 janvier 2018. Au sommaire, en République démocratique du Congo, la police disperse un attroupement devant la cathédrale de Kinshasa, où l'archevêque Laurent Mossengo venait de célébrer une messe. En Zambie, des échauffourées ont opposé la police à des vendeurs de rue après l'interdiction d'exercer leur activité pour lutter contre la propagation du choléra. Le président américain Donald Trump rejette les termes offensants qui lui sont prêtés sur Haïti et les pays africains. Mais les réactions d'indignation se multiplient.
Les propos tenus par le président ne sont pas injurieux seulement envers Haïti et l'Afrique, c'est injurieux envers toute l'humanité.
Ne ratez pas également les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Deux blessés à Kinshasa après la célébration ce vendredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo d'une messe en mémoire des victimes de la marche du 31 décembre 2017. Au sortir de la messe, des tirs ont été entendus devant la cathédrale, provoquant un mouvement de panique. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le mouvement de panique s'est observé au sortir de la messe que célébrait le cardinal Laurent Mossengo en mémoire des victimes de la marche du 31 décembre 2017. Selon de nombreux témoins interrogés sur place, une foule s'est mise à scander devant la cathédrale des slogans hostiles au président Kabila lorsque des tirs de gaz lacrymogène puis des tirs de sommation ont été entendus. Présent à la messe puis dans la foule, Vital Kamerhe indique sur son compte Twitter, je cite, « Nous sortions de la messe en marchant joyeusement avec la population revigorée par l'homélie et le message très fort de la Cinco avant d'être attaqué par la police ». Fin de citation. De son côté, le porte-parole de la police accuse Vital Kamerhe de provocation. À la fin de la messe, dit-il, l'officiant a indiqué que tous devaient regagner leur domicile ou leur lieu de travail. Mais à la surprise générale, Vital Kamerhe s'est fait accompagner des jeunes qui n'ont pas voulu répondre à l'ordre de la police de se disperser. La police a dû le faire à coups de gaz lacrymogène, dit à VOA Afrique le colonel Piero Mwanamputu. Le bilan fait état de deux blessés, dont un jeune homme touché près du nez. Cette messe, pour rappel, en hommage des victimes de la marche du 31 décembre 2017, était célébrée en présence de quelques diplomates, des membres de l'opposition politique et des mouvements citoyens. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, une dizaine de personnes, dont un journaliste congolais, ont été enlevées hier par des présumés rebelles ougandais. Selon Gilbert Kambale, président de la société civile locale, ces présumés rebelles des forces démocratiques alliées ont bloqué les véhicules qui revenaient de Kassindi dans la région de Beni avant d'amener les otages, dont le directeur d'une radio régionale. Les autorités congolaises ont par ailleurs ouvert ce vendredi une session de formation des cadres civils et militaires dans la gestion des problèmes sécuritaires, une expérience inédite en RDC. Cette formation intervient alors que la situation politique et sécuritaire est très tendue en raison du maintien au pouvoir du président Kabila à la fin de son dernier mandat le 20 décembre 2016. En République centrafricaine, le procès du redoutable chef anti-Balaka dénommé général Andilo, de nouveau suspendu aujourd'hui et renvoyé au 15 janvier. Accusé de plusieurs chefs d'accusation, l'homme a rejeté toutes les charges qui pèsent sur lui. Freeman Sipila.
72 heures devant la barre n'auront pas suffi au juge de la cour criminelle pour prononcer un jugement sur le général Andilo. Le jeune homme de 25 ans a adopté un style assez surprenant pour sa défense. Reconnaissez-vous avoir tué le gendarme de deuxième classe Guy Parfait Malikara en 2014 au PK12 à Bangui, demande le président de la cour. Je plaide non coupable, répond l'accusé. Quelques heures après sa mort, reconnaissez-vous avoir jeté son corps et emporté le véhicule qui le transportait pour la morgue? Je plaide non coupable, poursuit le général Andilo. Face au refus systématique des faits qui lui sont reprochés, un avocat de la partie civile a demandé au juge de poser la question à l'accusé s'il connaissait un certain Dieudonné Zapalainga, le cardinal archevêque de Bangui. À cette question, il lance « Je n'ai pas de réponse à donner ». Le général ignore tout, même le nom de son frère cadet. Il s'est présenté devant la barre comme le sauveur des Centrafricains face aux rebelles de la CELECA et non un criminel. Après plusieurs heures de débats contradictoires ce vendredi, le juge suspend le procès et le renvoie au 15 janvier. De son vrai nom, Rodrigue Ngaïbona, le général Ondilo est accusé de meurtre, vol aggravé, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Il était à la tête d'une puissante faction anti-Balaka composée de plus de 3000 hommes. Freeman Sipila Bongui, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'ex-commandant de gendarmerie Jean-Noël Abeyi écope de 10 ans de prison. Il était le principal accusé dans le procès des gendarmes et civils accusés d'avoir voulu renverser le président Alassane Ouattara en décembre 2012. Le parquet général avait requis la prison à vie à l'encontre des 12 prévenus. 8 d'entre eux, tous des civils, ont été relaxés. 3 soldats français de la force Barkhane ont été blessés, dont un grièvement dans l'est du Mali. Un attentat a été commis par un kamikaze visant donc ce convoi. Le convoi blindé français circulait entre Menaka et Indelimane hier, 11 janvier, date anniversaire du déclenchement de l'opération Serval le 11 janvier 2013. En Zambie, des échauffourées ont opposé aujourd'hui à Lusaka la police à des vendeurs de rue qui protestaient contre l'interdiction d'exercer leur activité dans le cadre de la lutte contre le choléra. Selon le dernier bilan, la maladie a fait 70 morts dans le pays. Salwa Diafari.
Dans le bidonville de Kanyama, à Lusaka, des centaines de résidents ont bloqué les rues avec des pneus enflammés et incendié un camion déboueur. La colère monte car beaucoup de familles de ces quartiers défavorisés dépendent du commerce de rue.
Les affaires vont mal à cause de cette maladie. Nous rejetons cette mesure parce qu'il s'agit de notre source de revenus. Nous dépendons de ce commerce pour envoyer nos enfants à l'école. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester à la maison parce que nous allons mourir de faim.
L'armée a également été déployée dans la capitale pour s'assurer que les vendeurs de rue, soupçonnés de ne pas respecter les règles d'hygiène, ne puissent pas exercer le temps de l'interdiction. Pour tenter d'enrayer la maladie, le gouvernement a aussi interdit les rassemblements publics et la rentrée scolaire est reportée dans tout le pays. Un couvre-feu a été également instauré à Kanyama, épicentre du choléra, qui a déjà fait plus de 70 morts et plus de 3000 cas déclarés.
L'armée du Mozambique et l'ancienne rébellion de la Renamo se sont rendus coupables avant le cessez-le-feu qui a mis fin à leur combat en fin 2016 à de multiples exactions restaient largement impunies selon Human Rights Watch. Dans un document de 65 pages, l'ONG a établi une longue liste d'abus recensés dans le centre du pays entre 2015 et 2016 qu'elle attribue aux forces gouvernementales comme des disparitions, des tortures et des détentions arbitraires. Les rebelles, eux, sont accusés d'avoir commis des assassinats et des pillages.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il n'avait pas utilisé l'expression jugée injurieuse qui lui a été attribuée lors d'une réunion avec des élus hier sur l'immigration. Mais en Afrique et en Haïti, les réactions n'ont pas tardé. Anastasie Toudiech.
Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur, mais ce ne sont pas les mots utilisés. Le président américain a répondu par ce tweet à la controverse provoquée par des propos jugés offensants qui lui ont été attribués hier. S'appuyant sur des personnes présentes lors de la réunion à la Maison-Blanche, plusieurs médias américains ont cité le président dénonçant l'immigration en provenance de pays tels que Haïti ou des pays africains. Sollicité hier soir sur ces propos, la Maison-Blanche n'avait pas démenti, soulignant simplement dans un bref communiqué que M. Trump se battrait toujours pour les Américains. L'Union africaine a qualifié ces remarques de blessantes et dérangeantes. Le Botswana et le Sud-Soudan ont fermement condamné les propos jugés outrageux. Le gouvernement haïtien s'est dit profondément indigné et choqué, et le Conseil des droits de l'homme a condamné les propos prêtés au président américain.
Et puis dernière réaction en date, celle du président sénégalais, Macky Sall s'est dit choqué. Il condamne et rejette catégoriquement les propos du président Donald Trump. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Les forces américaines ont mené dans l'est de l'Afghanistan une frappe aérienne sur une milice pro-gouvernementale. Ces frappes interviennent après une attaque apparente d'un élément infiltré. 13 combattants ont été tués dans l'incident. L'armée russe affirme avoir éliminé les auteurs d'une attaque au mortier menée le 31 décembre contre la base militaire russe en Syrie et qui avait fait 2 morts. La sécurité a été accrue après l'attaque autour de la base de Hemem située dans l'ouest de la Syrie. Le leader du principal parti pro-kurde en Turquie a comparu devant un tribunal ce vendredi pour la première fois depuis son arrestation il y a plus d'un an. Selahattin Demirtas demande sa remise en liberté conditionnelle. Écroué depuis novembre 2016 pour des accusations d'activités terroristes, il a été accueilli par les applaudissements de ses supporters, rassemblés par centaines devant un tribunal d'Istanbul. Et puis le pape François sera de retour la semaine prochaine en Amérique latine, au Pérou et au Chili. Donc, cette nouvelle visite a pour objectif de soutenir les peuples indigènes et revigorer des églises locales en perte de popularité, frappées notamment par des scandales de pédophilie. Son sixième voyage dans cette région, ce sera donc son sixième voyage dans cette région, mais le pape rencontrera aussi des leaders politiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakiza qui nous présente la Minute Éco.
Le FMI satisfait de la politique du gouvernement nigérian mettant en place un plan d'action quinquennal sur le genre et le projet de loi pour scolariser les filles plus longtemps, retarder l'âge du mariage et de la procréation. La France a promis de soutenir cette initiative à hauteur de 10 millions d'euros. L'aide publique au développement en provenance des pays membres de l'OCDE a atteint plus de 142 milliards de dollars en avril 2017. L'Afrique subsaharienne a bénéficié de plus de 41 milliards. Les États-Unis se classent en tête des pays donateurs, suivis par l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la France. Le Danemark, la Luxembourg, la Norvège et la Suède ont atteint l'objectif fixé par les Nations Unies. Aux États-Unis, le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler va investir 1 milliard de dollars dans une usine de Michigan et verser une prime exceptionnelle de 2 000 dollars. Dès le deuxième trimestre 2018 à ses 60 000 employés américains, à l'exception des cadres dirigeants. Cet investissement va moderniser sa chaîne d'assemblage Warren Truck et permettra de relocaliser d'ici 2020 la production de son pick-up Ram Heavy Duty, actuellement fabriqué au Mexique. Ce transfert de production doit créer 2500 emplois. Troisième constructeur automobile américain, Fiat Chrysler, attribue le fruit à la réforme fiscale de Donald Trump.
La page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La 5e édition du championnat d'Afrique des Nations débute demain au Maroc.
Et oui, le CHAN 2018 qui se déroule jusqu'au 4 février. La République démocratique du Congo, tenante du titre, est absente du tournoi. Cette phase finale s'annonce donc ouverte, comme nous l'explique sur place à Casablanca, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Samedi, sur la pelouse du complexe Mohamed V de Casablanca, la sélection du pays hôte affrontera la Mauritanie. Les Marocains comptent dans leur effectif des joueurs rodés aux joutes continentales, y compris 6 éléments du Wydad, récent vainqueur de la Champions League. En face, les Mourabitos n'aborderont ce premier match sans pression particulière. En effet, les protégés du français Corentin Martins sont en gros progrès, comme en atteste leur qualification au détriment du Mali. Toutefois, la logique voudrait que les Marocains puissent faire honneur à leur statut de pays organisateur. D'ailleurs, le comité d'organisation locale table largement sur une grosse prestation des Lions de l'Atlas pour pouvoir drainer le maximum de supporters sur les 4 terrains où aura lieu la compétition. Un pari que les responsables du CHAN comptent relever de façon à ce que cette 5e édition soit une belle vitrine pour le royaume chérifien à 3 mois de l'annonce de la FIFA du nom du pays qui aura l'honneur d'organiser le Mondial 2026. Depuis Casablanca, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Le Barça corrige le Celta Vigo et se qualifie en quart de finale de la Coupe du Roi.
Tenu en échec à l'aller 1-0, le Barça a corrigé hier soir le Celta Vigo 5-0 en 8e de finale retour de la Coupe du Roi. Ce match s'est joué en 30 minutes pour les Blaugrana qui menaient déjà 4-0. À noter que Lionel Messi est l'auteur d'un doublé.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto a surclassé Cleveland 133-99, infligeant à LeBron James l'une de ses plus lourdes défaites depuis son retour dans l'Ohio en 2014. Boston, meilleure équipe de la conférence Est, a aligné une 7e victoire consécutive en renversant Philadelphie 114-103. À noter que cette rencontre avait été délocalisée à Londres.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila tient, selon son entourage, aux élections du 23 décembre prochain et promet de respecter la constitution qui lui interdit de briguer un troisième mandat. Eddie Isango a interviewé dans nos studios à Washington le conseiller du président Joseph Kabila, Julien Lubunga.
L'opposition a peur d'aller aux élections qui sont prévues le 23 décembre de cette année et tous ceux qui se joignent à ce discours disant qu'il faut une transition sans Kabila, tous ceux qui disent qu'il faut un nouveau calendrier électoral, qu'il faut une nouvelle commission électorale nationale indépendante, ce sont des gens qui ne veulent pas aller aux élections et malheureusement le cardinal se joint à ces gens-là, contre même le point de vue de toute l'Église qui est à plusieurs diocèses en République démocratique du Congo.
Pourtant, la CENCO avait été nommée médiatrice de la crise par le président de la République démocratique du Congo.
L'Église continue à très bien jouer ce rôle-là. Elle fait la médiation entre les acteurs politiques, mais ce n'est pas à l'Église de s'identifier à une certaine catégorie de politiciens, notamment l'opposition. Vous voyez aujourd'hui dans la cathédrale de Kinshasa des messes qui sont célébrées juste devant les membres de l'opposition, alors que l'Église devait réunir tous les politiciens et ne pas dire qu'il y a d'un côté des mauvais et d'un autre côté des bons.
La CENI a enregistré ses premières machines à voter, mais qui sont controversées. Est-ce qu'il y a des garanties que cette date du 23 décembre qui a été fixée par la CENI pourrait être respectée au regard de tout ce qui se passe, manifestations?
Pendant longtemps, le discours de l'opposition, c'était que la CENI publie le calendrier électoral. Et depuis le mois de novembre, quand le calendrier a été publié et qu'on a fixé au 23 décembre 2018 la date des élections présidentielles et législatives, maintenant le discours a changé. On parle aujourd'hui de transition sans Kabila, on parle aujourd'hui de réformer la commission électorale nationale indépendante. Et tout cela, c'est à ce moment-là qu'on voit qui sont pour les élections et qui sont pour le retard de ces élections-là. Parce que si on se met à reformuler la commission électorale nationale indépendante aujourd'hui, on ne sait pas combien d'années ça va encore prendre pour que les politiciens se mettent d'accord sur une nouvelle CENI et sur un nouveau calendrier électoral. Le plus simple serait de laisser les jours passer et que au mois de décembre, le 23, qu'on aille aux élections et que le peuple congolais enfin se choisisse ses nouveaux dirigeants.
L'opposition et les autres demandent parfois une transition sans Kabila parce qu'ils le considèrent comme étant l'auteur de toutes ces manœuvres.
La transition sans Kabila n'est basée sur aucun texte, ni la Constitution, ni le fameux accord du 31 décembre. Kabila cédera le pouvoir à un président élu.
La communauté internationale, les États-Unis, la Belgique, les autres, demandent qu'ils disent aussi qu'il ne se représentera pas.
Le président Kabila a dit ça à plusieurs reprises, qu'il va se conformer à la Constitution et qu'à l'issue de ces deux mandats, il cédera son pouvoir à un président élu.
C'était Julien Lubunga, conseiller du président Joseph Kabila, de passage à Washington.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
En Tunisie, les manifestations contre la hausse des prix ont repris aujourd'hui à Tunis et à Sfax, dans le centre du pays. Les protestataires réclament la révision des mesures d'austérité. Plus de 780 personnes ont été arrêtées depuis lundi. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Tunisie et de Dunes Voices.
À Tunis, c'est plutôt de petites manifestations de jeunes seulement. Par contre, dans le restant du pays, c'est-à-dire à Tasrine, si vous dites le bastion traditionnel de la contestation en Tunisie, il y a eu des manifestations de chômeurs, de marginalisés.
Que réclament les protestataires? Le fond des revendications est-il le même depuis la révolution de 2011?
Le fond Ben, c'est toujours le même depuis 2011. C'est peut-être pire, c'est qu'il y a un sentiment de désillusion qui s'installe dans le pays. D'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui qui s'est installé. Juste après les élections de 2014, une année après, ben, la désillusion commence à s'installer, c'est-à-dire que les gens ne croient plus aux promesses des gouvernants. Donc, du coup, de temps à autre, il y a des manifestations de rue pour réclamer de réaliser les objectifs de la révolution. On a la démocratie, on peut manifester, mais la démocratie, le ventre creux, est une désillusion.
L'opposition est-elle impliquée dans cette contestation, comme l'affirme le gouvernement ?
Pour dire que Kagasrine ou Sidi Bouzid, l'opposition est impliquée, cela m'étonne très fort. Par contre, les petites manifestations de Tunis, de quelques centaines de personnes, oui, on peut dire que le Front populaire, cité par le chef du gouvernement, Youssef Chirac, est là-dedans. Tu sens ça à travers les slogans prononcés par les manifestants. À travers les slogans, on comprend le profil des manifestants. L'opposition, le Front populaire, accusé par le chef du gouvernement, ne peut pas prétendre être derrière. Ce sera trop fort pour le Front populaire de dire qu'il est derrière ces manifestations de l'intérêt du pays. Non. À l'intérieur du pays, c'est plutôt des réactions spontanées de gens désabusés par des promesses qui n'ont jamais tenu la route, quoi. Du coup, c'est la désillusion, c'est le poids des années, c'est le poids de la pauvreté, de la marginalisation qui est derrière.
On s'approche des premières élections municipales de la pré-révolution. À quoi faut-il s'attendre pour la suite ?
La Tunisie a été gouvernée durant ces 7 dernières années par de multiples couleurs politiques. Il y a eu la Troïka avec l'islamiste au pouvoir, avec deux autres partis laïques, dans le CPR et Sakatol. Aujourd'hui, les islamistes sont de nouveau, pas au pouvoir, mais associés au pouvoir avec Nida Tounes. Et donc, les Tunisiens ont essayé de toutes les couleurs, il n'y a pas eu de résultat. C'est plutôt cette désillusion par rapport à la classe politique qui s'est installée et qui risque d'impacter les élections. Ce ne sont pas les réactions populaires. C'est la désillusion qui risque d'impacter les élections municipales. Ça risque de donner un taux de participation très réduit. Donc la classe politique a vraiment à travailler dur pour se faire convaincre, pour chasser la désillusion.
C'était Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Tunisie et de Dunes Voices.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président américain Donald Trump a contesté aujourd'hui avoir utilisé, lors d'une réunion sur l'immigration, une expression jugée injurieuse à l'égard de l'Afrique et de Haïti. Cette nouvelle polémique a entraîné de nombreuses réactions en Afrique et à Haïti. Yacouba Ouedraogo a joint ici à New York Bakary Tondja, défenseur des droits des immigrants.
Les propos tenus par le président ne sont pas injurieux seulement envers Haïti et l'Afrique. C'est injurieux envers toute l'humanité parce qu'il a porté une atteinte grave aux droits fondamentaux des Noirs d'une manière générale. De ma part, ce n'est pas tellement surprenant de la part de la Trump.
Mais il a nié les propos.
Il ne peut pas le nier. Si, par exemple, ces propos étaient des propos isolés, les gens auraient pu faire semblant de comprendre. Il l'a fait envers les Mexicains. Il est pris en flagrant délit, donc il doit tout simplement s'excuser.
On va rappeler que Donald Trump nie ces propos-là. Néanmoins, l'ONU les a qualifiés de choquants et honteux. L'Union africaine parle de remarques blessantes et dérangeantes. Cette situation ne risque-t-elle pas de contribuer à pourrir une atmosphère déjà pas au beau fixe sur la politique migratoire de Trump à l'égard de l'Afrique et les autres pays, bien sûr?
Dans tous les cas, nous ne pouvons pas compter sur Trump. Et d'ailleurs, quand il fait référence à la loterie Green Card, au principe du mérite. Si la Maison Blanche était basée sur le mérite, Trump n'allait jamais être président. Personne ne doit compter sur lui pour adopter des programmes politiques positifs envers des immigrants.
Donald Trump tente de se poser en négociateur en chef sur le dossier de l'immigration concernant notamment la régularisation de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux États-Unis, les Dreamers. Les choses ne vont-elles pas s'envenimer davantage?
La situation période de crise dans laquelle se trouvent les Dreamers a été provoquée par lui. C'est lui qui a mis fin au programme. Ils sont de facto des Américains, parce que s'il y en a qui sont venus ici, peut-être ils avaient moins d'un an. Ils ont fait leur étude ici. Ils sont éduqués, ils travaillent, ils contribuent. Sur le plan économique, l'argument n'est pas valable. Sur le plan moral, ce n'est pas acceptable. Et sur le plan légal, ils n'ont causé aucun crime pour être punis.
Donald Trump a lié toute régularisation de la situation des Dreamers à la réalisation de son projet de mur à la frontière avec le Mexique et la suppression de la loterie Visa. Les démocrates s'y opposent. Jusqu'à quand va durer ce bras de fer?
Le mur, c'est un non-sens. Et surtout quand il dit que le mur va être payé par le gouvernement mexicain, c'est complètement de l'ignorance. Le bras de fer doit continuer.
La date butoir des négociations, c'est mars 2018. Pensez-vous qu'il puisse avoir un compromis entre républicains et démocrates avant l'échéance prévue?
C'est toujours possible. Dans le camp républicain, il y a des élus qui sont raisonnables. J'espère qu'ils vont essayer d'utiliser leur levier de commande pour solidariser avec les démocrates.
C'est Bakary Tandjian, défenseur des droits des immigrants à New York.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami. À la console, Cédric Franklin. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le journalisme reste une profession dangereuse dans trop d'endroits à travers le monde. Le 16 octobre, Daphne Caruana Galizia, une journaliste examinant la corruption à Malte dans l'enquête sur les Panama Papers, a été tuée par l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture. En septembre, des assaillants ont mis le feu à la voiture de Yulia Latinina, chroniqueuse pour Novaya Gazeta et animatrice d'une émission de radio hebdomadaire en Russie. Protéger les journalistes et les professionnels des médias contre la violence de ceux qui voudraient les censurer est un principe fondamental de la liberté d'expression, a déclaré Shannon Maguire, conseillère média auprès du Bureau pour l'Europe et l'Eurasie de l'USAID. Depuis 1992, plus de 800 journalistes ont été assassinés dans le monde, selon le Comité pour la protection des journalistes, le CPJ. 86% ont été tués en toute impunité, ce qui signifie que personne n'a été tenu responsable. En Russie, pays figurant dans les top 10 de la liste du CPJ, l'attaque de Latinina n'est que la dernière d'une série d'agressions et de menaces contre les journalistes russes et les personnalités de l'opposition qui n'ont pas abouti à des mises en accusation formelles. En Ukraine, le meurtre du célèbre journaliste d'investigation, Pavel Jeremy, n'est toujours pas élucidé plus d'un an plus tard. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a accordé la priorité aux médias indépendants en Europe et en Eurasie depuis ses débuts là-bas en 1992. Ces programmes portent à la fois sur l'offre et la demande des nouvelles et d'informations et préconisent une plus grande liberté de presse. L'un de ces programmes est le Regional Investigative Journalism Network, qui aide à protéger les journalistes contre les attaques en rendant plus difficile pour les criminels d'identifier ceux qui ont dénoncé leurs méfaits. En Ukraine, le projet YouMedia de l'USAID a collaboré avec plus de 500 médias indépendants pour s'assurer que les journalistes professionnels opèrent en toute sécurité et protègent leurs données dans les zones de conflit de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée. Les bailleurs des fonds, les décideurs politiques, les organisations de défense des droits humains et les organisations de la société civile doivent continuer à exercer des pressions sur les personnes impliquées dans la censure pour garantir la poursuite d'un débat ouvert et public et la libre circulation de l'information. Les journalistes ne sont pas des soldats et leurs caméras et stylos ne sont pas des armes, a déclaré Madame Maguire. Ils ne devraient pas avoir à craindre l'expression. Ne tuez pas le messager.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.